Rien que des garçons, ce samedi matin au micro pour le tour de table culturel. Les filles reviendront la semaine prochaine, peut-être au moins une des deux, sans aucun doute. Qui sont-ils les garçons? Il y a Thierry Geffrotin, Mathieu Charrier, Nicolas Carreau et moi-même. Mes amis, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, à vous l'ouverture. Vous avez lu le dernier roman de Laurent Binet, excellent auteur français, l'auteur du célèbre HHHH. Il s'est amusé dans un nouveau livre qui vous a interloqué.
Et qui s'appelle Civilisation, au pluriel et avec un Z. En fait, c'est le nom d'un jeu vidéo Civilisation. Un jeu vidéo génial, un classique du genre. Il s'agit de choisir un peuple et de le faire évoluer. Et bien, Laurent Binet, l'auteur donc de HHHH, joue avec l'histoire et les civilisations. Effectivement, il fait ce qu'un historien trouverait sacrilège, mais qu'un romancier peut s'autoriser. Il change le cours de l'histoire a posteriori. Il se demande « et si ?». C'est une uchronie. Et en l'espèce, et si ce n'étaient pas les Occidentaux qui avaient conquis et dominé l'Amérique du Sud, mais les Incas qui avaient débarqué en Europe?
Très
en l'occurrence,
hypothèse.
Ouais, c'est l'empereur Inca Atahualpa qui arrive à Lisbonne au XVIe siècle et qui conquiert l'Europe. Vous allez me dire, c'est complètement idiot, il y a mille raisons pour lesquelles justement les Incas n'ont pas débarqué en Europe. C'est vrai. Et je suis allé un peu vite. C'est beaucoup plus malin que ça. Le roman est construit en quatre parties. La première, c'est l'histoire de Freydis Eriksdóttir, la fille d'Éric le Rouge, le viking.
Oui.
Et l'histoire est racontée précisément à la manière d'une vieille légende nordique, Freydis, donc la fille d'Éric le Rouge, qui rejoint d'abord le Groenland, puis le Vinland à l'est du Canada. Jusque-là, les vikings qui découvrent l'Amérique du Nord, merci, on savait. Sauf que cette fois, Freydis décide de descendre et d'explorer un peu le sud. Sauf qu'évidemment, elle débarque, elle et ses hommes, avec son lot de bactéries. Et elle fait pas mal de morts sur son passage. Oui, mais ils échangent aussi des techniques, des matériaux. Les vikings apportent le fer, le cheval, mais surtout donc les maladies. C'était pas sympa sur le coup, forcément, mais les Incas développent des anticorps. C'est ce qui leur manquait dans la véritable histoire pour résister aux maladies européennes. La deuxième partie, c'est le journal de Christophe Colomb. Je vous le dis tout de suite, il ne découvre pas l'Amérique. Et voici la troisième partie qui constitue donc les deux tiers du livre, les chroniques d'Atahualpa. On change encore de mode narratif. On suit l'histoire de cette conquête de l'Europe par une poignée d'hommes. Ce faisant, on visite tout le XVIe siècle de Charles Quint et on s'amuse beaucoup aussi, on sourit dans ce livre. Laurent Binet s'amuse à changer le regard que l'on porte sur l'histoire.
Ah oui, Charles Quint qui a quand même génocidé les Incas entre autres, mais pas que. Mais c'est complètement absurde comme bouquin ou alors Binet respecte tout de même une forme de vérité historique?
Le décor historique est complètement respecté. On croise Luther, François Ier, Erasme, mais la fiction prend quand même le dessus toujours. Les temples du soleil remplacent les églises. Les Mexicains bâtissent une pyramide dans la cour du Louvre. C'est pas la même. C'est un bac à sable pour un écrivain, ce genre de roman. Tout est permis. Et là, c'est une manière de regarder l'histoire de l'Europe, donc nous-mêmes, depuis un nouvel angle. Et c'est jubilatoire. Ça se lit comme on joue à un jeu vidéo, en fait.
Civilisation, avec un Z à la place du S du milieu, de Laurent Binet. C'est paru chez Grasset, pas mal, Nicolas Carreau. Et vous, Mathieu Charrier, vous nous parlez aujourd'hui d'un film dont j'ai lu beaucoup de choses dans les gazettes ces derniers jours, mais je n'ai pas vu encore le film. Ça s'appelle Atlantique, de Mati Diop. Ça a eu un prix à Cannes.
Oui, exactement. Grand prix au dernier festival de Cannes. Mati Diop, c'est une jeune franco-sénégalaise surdouée. Elle est d'ailleurs la première réalisatrice métisse qui était en compétition à Cannes, quand même, en 2019, faut le dire, enfin 2018, l'année dernière. Elle a donc raflé ce grand prix du jury. Et ce film raconte comment les âmes des disparus viennent hanter les vivants sur les côtes africaines. On est à Dakar. Notre héroïne, elle s'appelle Ada. Elle est promise à un riche homme d'affaires qu'elle n'aime pas. Elle, celui qu'elle convoite, c'est Suleiman, jeune employé sur les chantiers des gratte-ciels qui poussent dans la ville. Sauf que son patron ne le paie pas, Suleiman. Et il décide donc, avec d'autres de ses collègues et amis, de tenter la fameuse traversée, d'émigrer vers l'Europe. Ils vont disparaître, mais leurs âmes vont revenir hanter leurs femmes restées à Dakar. Et c'est toute la beauté de ce film, qui est un mélodrame politique, fantastique par certains côtés, mais qui raconte l'omniprésence et la fascination qu'exerce cette eau qui borde les villes de mer africaines, cet océan à la fois porte d'entrée vers un avenir meilleur et en même temps qui prend tant d'amis, d'amour, de membres de la famille. Écoutez la réalisatrice Mati Diop.
Ce qu'ils voient physiquement, l'endroit à traverser, à braver entre l'Espagne et là où ils sont, c'est l'océan. Je pense qu'en fait, j'ai aussi fait ce film parce qu'il y a une partie de moi qui n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à braver cet élément qui, moi, personnellement, me fascine et me terrifie au plus haut point. Il y a une dimension qui va au-delà de l'héroïsme. Il y a une dimension aussi, pour moi, mythologique. qui permet vraiment d'inscrire l'immigration dans une histoire de l'humanité, en fait.
Voilà, c'est pas un film facile, Atlantique, hein, je vous le dis, c'est un film complexe, mais c'est vraiment un très beau film qui est utile, qu'il faut aller voir, je le redis. Moi, je l'avais vu à Cannes en mai dernier et j'ai encore énormément d'images en tête. C'est vous dire le nombre de films que je vois chaque semaine, c'est que c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et Mati Diop, retenez ce nom, on voit beaucoup parler de cette jeune réalisatrice et je pense qu'on va en entendre parler encore dans les années qui viennent.
Il me semble que c'est un film assez énigmatique. Oui. Atlantique.
En plus, on ne peut pas trop en dire pour ne pas tout dévoiler.
Non. Mais... Ne dites pas tout, Mathieu Charrier, ne dites pas tout, restez mystérieux, c'est comme ça que vous êtes le plus charmant. La suite de ce tour de table culturel, dans un instant, on va au théâtre avec Thierry Geffrotin. Et puis moi, j'ai un polar américain qui se passe dans le Montana, dans le milieu des pêcheurs à la mouche. Enfin, c'est, vous allez me dire, oh, elle a déjà vu ça. Non, c'est super, à tout de suite. La suite du tour de table culturel, donc avec vous, Thierry Geffrotin. Thierry, bon, tout le monde se souvient de Garde à vue, le célèbre film de Claude Miller sorti en 81 avec Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, Guy Marchand. Mon Dieu, quelle affiche extraordinaire. Aujourd'hui, le film devient une pièce de théâtre en garde à vue et c'est au théâtre Héberteau, à Paris.
Oui, alors, nous sommes le soir de Noël, il est 22h. Le maire d'une petite commune se rend au commissariat de police. On lui a demandé de passer. Oh, juste quelques minutes, hein. Et une heure et demie plus tard...
Il est 23h40. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Tout ce que vous direz sera consigné.
Garde à vue, oui, garde à vue pour le maire, interprété par Thibaut de Montalembert.
C'est un notable, un bourgeois, qui est marié, sans enfant. Et trois fois de suite, il s'est retrouvé loin de chez lui, à proximité de meurtres et de viols sur des adolescentes. Et donc, il est fortement soupçonné.
Huit clos, donc, qui débutent, qui mettent en scène un commissaire assez roué, il faut le dire, un inspecteur plutôt rustre, ils vont bien ensemble les deux, le maire à la fois fort et faible, ça dépend des moments de la garde à vue, et son épouse qui charge le mari.
Donc, c'est une adaptation théâtrale du célèbre film de Miller. Ça donne quoi au théâtre ?
Eh bien, le film, c'était déjà un huis clos, hein, il faut dire. Oui. Il avait toutes les apparences d'une pièce de théâtre, unité de temps, de lieu, d'action, les grandes règles du théâtre classique. Mais il faut dire que la pièce n'est pas un copier-coller du film. Francis Lombraille, qui s'est chargé de l'adaptation et qui joue le rôle de l'inspecteur, y tenait absolument.
Moi, je n'avais pas de caméra pour faire de gros plans. J'ai refait des personnages avec une profondeur psychologique. Il s'est très, très travaillé. Moi, de toute façon, j'estime que même si on prend des sujets très contemporains, il faut travailler, travailler le texte.
Le résultat, c'est une pièce sous tension, 1h20, je vais vous dire ça. On ressort, on est pris. Hein. On rit aussi, il faut le dire, avec une distribution de choix, Vladimir Yordanov, Thibaut de Montalembert, donc Marianne Bassler et Francis Lombraille.
Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de goût pour Thibaut de Montalembert, qui est un super acteur que j'ai découvert dans la série 10%, mais j'imagine qu'il avait fait plein de choses avant.